Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, vous écoutez France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous pendant cette demi-heure à venir pour le service protestant qui sera suivi de votre rendez-vous Culture protestante. Alors j'accueille ce matin la pasteur Joëlle Razana-Johari qui a déjà eu l'occasion d'intervenir en début d'année dans notre émission, mais qui revient aujourd'hui avec de nouvelles responsabilités. Bonjour Joëlle.
Bonjour Jean-Luc.
Alors racontez-nous donc ce qui a changé depuis votre dernière participation au service protestant. À l'époque, vous étiez pasteur à Metz pour la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France.
C'est cela. Alors deux choses essentiellement. La première des choses qui a changé et qui est importante pour moi, c'est la rencontre avec Paris, la grande ville.
Vous êtes parisienne maintenant.
Je suis parisienne, j'habite à Paris, en cœur de ville, et d'origine, je suis une petite campagnarde qui n'a jamais vécu dans une grande ville. Donc,
grand changement.
Beaucoup d'adaptations, le bruit, les transports en commun et tout ça, c'est vivifiant, parfois un peu stressant,
ouais, j'imagine.
Mais exaltant aussi.
Mais alors, cette venue sur Paris, elle a une raison?
Oui. Ben la prise de fonction de ce poste de secrétaire général, là aussi, entre le ministère pastoral qui est très local, où au bout d'un certain temps il y a une routine qui se met en place, bien il s'avère que la fonction de secrétaire général est extrêmement diversifiée, beaucoup plus large, avec des problématiques toutes nouvelles. Donc là aussi un grand challenge.
Alors secrétaire général de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, dont
oui.
Vous êtes pasteur, donc.
Oui.
En quoi ça consiste, très simplement, sans aller trop dans les détails, mais voilà, les grandes lignes de cette fonction?
Alors, il y a d'abord tout un aspect administratif. Le mot secrétaire, d'ailleurs, dit bien ce qu'il veut dire. Un aspect d'accompagnement des églises, de soutien au corps pastoral dans des choses concrètes. Il y a aussi, quelque part, une fonction pastorale qui est attendue de ma part pour les pasteurs, mais aussi au niveau de la vision, au niveau de la construction de nouveaux projets.
Quelqu'un qui
dynamise
insuffle
peut-être,
aussi,
voilà, qui insuffle des directions, des projets. Et puis, il y a une grande part de représentation aussi, ouais, par rapport aux autres familles d'église à côté. Tout le monde sait que le monde protestant est extrêmement diversifié, a fortiori le monde évangélique. Donc représentation au niveau national, mais aussi international, européen et mondial, puisque la famille baptiste est une famille mondiale.
Oui, une des plus grosses unions protestantes dans le monde, je crois.
Oui, tout à fait. Aussi bien du côté américain que du côté Europe de l'Est. Voilà, les baptistes sont très présents.
Sont implantés un peu partout.
Oui, dans le monde entier.
Et alors justement, cette fédération baptiste, un peu à cheval entre des églises dites historiques, peut-être plus traditionnelles dans leur forme, et puis tout le courant évangélique, peut-être là un peu entre les deux, si je comprends bien.
Oui, on dit souvent que nous sommes un pont entre les familles d'église purement évangéliques et les familles historiques, comme vous dites, quoique c'est un pléonasme, puisque les baptistes sont aussi historiques.
Alors, c'est une vieille union.
Alors, c'est un vieux courant spirituel, puisqu'il a 4 siècles. Quand on s'approche un petit peu plus d'aujourd'hui, la première église baptiste implantée en France va à 200 ans, puisqu'elle date du 17 septembre 1820. Donc, voilà.
Ah oui, donc
que je dise pas de bêtises.
C'est un anniversaire aussi.
C'est un gros anniversaire pour nous. Et puis, encore plus récemment, la fédération baptiste telle qu'elle existe aujourd'hui a un siècle. Elle a même participé à la constitution de la Fédération protestante de France.
D'accord.
Donc, on n'est pas des nouveaux-nés sur la plateforme des familles d'églises en France.
Et ça représente beaucoup d'églises en France, beaucoup de monde ?
À l'heure actuelle, on est à 125 églises. Le corps pastoral est un petit peu plus étoffé parce qu'il regroupe des pasteurs, des missionnaires et puis beaucoup d'aumôniers, aumôniers en prison, aumôniers aux hôpitaux, aumôniers aux aéroports.
Aux armées.
Aux armées aussi, exactement.
Je crois que c'est la première fois qu'une femme se retrouve dans cette responsabilité en France, du moins pour une union d'églises de type évangélique.
Oui,
alors,
tout à fait.
Ça doit être la question qui revient
régulièrement. Tout le temps.
Vous abordez cela de quelle façon, vous, personnellement ?
Alors, à la fois, je ne peux pas empêcher les gens de me poser cette question, parce que toute première reste une première. C'est quelque chose qui est important. Ça ne me gêne pas qu'on me pose ces questions. Il y a quand même parfois un petit peu d'agacement, parce que quand j'arrive dans un milieu, je ne le vis pas en tant que femme.
Oui, bien sûr.
Je le vis en tant que pasteur. Je vois mon poste de secrétaire général avec qui je suis, avec les idées que j'ai. Et donc, c'est un peu fatigant parfois qu'on me ramène toujours à cette problématique. Mais je comprends très bien que pour beaucoup de personnes, ça soit important. Et donc, qu'il faille en parler.
Oui.
Alors, je ne me soustrais pas à l'exercice.
Notamment pour les femmes, je pense qu'il y a là aussi une forme d'enjeu aussi, de reconnaissance.
Pour beaucoup de femmes, c'est important parce que ça ouvre le champ des possibles.
Oui.
Beaucoup de jeunes femmes m'abordent avec des yeux grands ouverts et me disent « Alors, dans nos milieux, c'est possible. Eh bien oui, c'est possible. On peut être pasteur en responsabilité d'église, voire même en responsabilité d'une fédération. »
Deux, trois choses que vous portez plus particulièrement justement dans la façon de vivre ce nouveau ministère au sein de la Fédération Baptiste ?
Alors quelque chose qui me tient profondément à cœur et que j'ai mis en œuvre déjà dans le ministère à Metz, c'est un travail d'unité dans le sens où notre famille d'église, tout comme nos églises aujourd'hui, sont composées de différentes compréhensions de la foi, de différentes expressions de la foi. Les personnes aujourd'hui qui fréquentent nos églises n'ont pas peur de passer d'une église, voire d'une famille d'église à une autre, et arrivent donc dans nos familles ou dans nos églises, avec un arrière-plan, une conception de ce que devrait être la vie d'église très différente. Parfois du voisin qui est assis à côté. C'est la même chose pour nos familles, pour nos églises. Donc, mon premier travail, pour moi, consistera à aider chaque église à comprendre la manière de vivre la foi de l'église baptiste d'à côté.
Eh bien, pasteur Joël Razanajohari, je vous propose de continuer notre service protestant avec une réflexion que vous souhaitez donc nous partager sur France Culture et qui se construit autour d'un texte, si j'ai bien compris, du livre de l'Ecclésiaste.
C'est cela, c'est le texte d'Ecclésiaste 7, les versets 8 à 11.
Alors, on vous écoute.
« Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit large qu'un esprit dominant. Que ton esprit ne se presse pas de s'irriter, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Ne dis pas comment se fait-il que les jours d'antan ont été meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas par sagesse que tu as posé cette question. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage, et tout être humain peut en tirer profit. » Alors c'est une affirmation particulière et forte, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et c'est une affirmation récurrente de la part de l'auteur de ce livre. En ouverture de ce passage, au tout début du chapitre 7, il affirmait déjà « mieux vaut le jour de sa mort que le jour de sa naissance ». Mon prédécesseur à la Fédération Baptiste, Marc Dereux, avait appuyé l'une de ses dernières méditations au poste de secrétaire général sur ce texte en juin de cette année. Et depuis lors, ces mots n'ont pas cessé de m'interpeller et de me questionner. Qu'en est-il alors de tous ceux qui démarrent quelque chose de nouveau? Qu'en est-il pour moi qui débute dans ces mêmes fonctions? Qu'en est-il de ceux qui rentrent en cette période si redoutée parfois, et tout particulièrement en ces temps de crise sanitaire et économique due à la Covid-19? Comment vivre ces nouveaux commencements? Je vous livre donc ici le fruit de la cogitation qui a animé les mois passés. Alphonse Maillot, un pasteur aujourd'hui décédé, dans un livre intitulé « Coëlette ou la contestation », comprend cette affirmation comme l'expression de la pensée israélite qui est, d'après lui, toute tendue vers la solution. Pour l'israélite, c'est l'apocalypse, dans son sens étymologique de dévoilement, de révélation des choses qui explique, éclaire et dénoue la Genèse, c'est-à-dire le lieu où se noue le problème. Alors que la pensée occidentale, affirme le pasteur Maillot, et je le cite, pense résoudre les problèmes en retrouvant toutes les données de l'hypothèse. L'israélite, d'après lui, s'intéresserait aux fins, là où l'occidental rechercherait les causes. Ce dernier se demanderait « pourquoi ?», là où l'israélite poserait un « pourquoi ?». Et ça me parle. J'ai réalisé également que chaque fin est en soi le commencement d'autre chose, un peu comme les deux faces de la même pièce de monnaie. Il n'y a donc pas lieu de les opposer, mais de les considérer comme des étapes qui s'enchaînent sur le chemin qui mène au dénouement du grand projet de Dieu. Toute fin est forcément le commencement d'une autre chose. Et c'est donc la pensée de la fin souhaitée pour la chose qui commence, qui orientera nos actions dans la construction et dans le déroulement de cette chose. Un deuxième aspect intéressant de la pensée israélite telle que la conçoit Alphonse Maillot et qui va compléter ce que je viens de dire, se situe dans le dynamisme insufflé par la question « pourquoi ?».
Alors, vous envisagez donc là, si je comprends bien, deux façons d'entendre un même mot, ce mot « pourquoi ?», ou plutôt en un ou justement deux mots.
Tout à fait.
C'est un peu compliqué.
Ce sont des jeux de mots, c'est plus facile en visuel alors qu'en sonore. Voilà. Là où la question pourquoi,
en un seul mot,
lorsqu'elle est posée seule, aboutit à la recherche de responsabilités passées et aboutit dans des culpabilités stériles, la question du pourquoi, en deux mots, en vue de quoi, met en route aussi bien intérieurement qu'extérieurement. C'est une question qui nous amène à regarder le passé sous un angle bienveillant et vivifiant, et non pas dans un regret stérile comme celui pointé par l'Ecclésiaste au verset 10. Je vous rappelle, il dit « Ne dis pas comment se fait-il que les jours d'antan ont été meilleurs que ceux-ci. Ce n'est pas par sagesse que tu as posé cette question. » Au contraire, la question du « pourquoi » nous amène à orienter nos regards vers un « à ». Venir, en deux mots également.
Là aussi, oui.
Et pour moi, c'est là qu'il faut jouer avec le mot en le décomposant pour entendre son sens profond. En vue de quoi est-ce que je suis là où j'en suis? Et puis d'ailleurs, où est-ce que j'en suis?
Où en suis-je?
Où en sommes-nous pour un couple, une famille, un groupe associatif, voire une entreprise? C'est une question fondamentale à se poser régulièrement. Et les temps de changement, de rentrée, de nouvelles prises de fonction, pour moi, facilitent cette réflexion. Les temps de fin, commencement sont propices pour moi à la réévaluation des pratiques, des objectifs. Et même s'ils apportent parfois un lot de nostalgie, de tristesse inévitable, ils apportent en même temps un lot appréciable de possible.
La période actuelle, d'ailleurs, a sans doute besoin, en tout cas c'est l'impression que j'ai, d'entendre
ouais.
parler de possible,
tout à fait, ouais.
précisément un peu d'espérance, ouais. Et sans doute bienvenue pour envisager un aujourd'hui, et puis encore plus même un futur.
Pour moi, les réponses apportées au « où en suis-je » ou bien au « où en sommes-nous » doivent le permettre. Malgré la situation, elle pose les bases de la construction du « où est-ce que je vais ?»« Où allons-nous ?» qui à leur tour vont me permettre de réfléchir au « comment je vais y arriver à cet objectif, à cette fin que j'espère ?»
Alors là, si je peux me permettre, ce que vous sous-entendez m'évoque ces diverses citations et pensées philosophiques et bibliques d'ailleurs également qui insistent sur l'importance du chemin. En substance, c'est dans un voyage, ce n'est pas tant la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Oui. Et les détours également, même parfois, et avec Dieu, je pense qu'il y en a souvent.
Il y en a souvent, tout à fait.
Et si on ajoute donc cette parole biblique qui nous invite à entendre que Jésus-Christ se propose d'être ce chemin, cela est d'autant plus passionnant, non ? Qu'en pensez-vous ?
Il y a clairement une sagesse profonde dans ce principe. Ces trois temps de réflexion que j'évoquais, menés par les croyants dans la prière et sous le regard de Dieu, avec un esprit large, englobant et non dominant, hautain ou orgueilleux, comme le stipule l'Ecclésiaste au verset 8b.
Mieux vaut un esprit large qu'un esprit dominant.
Tout à fait, c'est cela. La traduction est personnelle. Ces temps de réflexion portent un fruit de sagesse inestimable, tout aussi précieux qu'un héritage. Alphonse Maillot prend le temps d'ailleurs de s'arrêter sur ces deux expressions pour stipuler qu'elles sont spatiales toutes les deux. Alors je le cite dans son livre, il dit « Il y a l'esprit en largeur, horizontal, au ras des pâquerettes, au niveau du monde et des autres. » Et il y a l'esprit en hauteur, vertical, c'est-à-dire orgueilleux, dominateur. Le premier prend son temps, le second sait tout par avance. Pour moi, seule cette largesse, cette horizontalité ou profondeur du regard qui embrasse pleinement la difficulté et tout à la fois accueille l'idée potentielle d'une solution qui viendrait d'ailleurs est une pensée soumise au plan de Dieu. C'est pour cela que l'Ecclésiaste a l'esprit lent et large, et ça lui permet de déchiffrer le présent dans l'éclairage de la fin. Je vois aujourd'hui de nombreux croyants qui sont abreuvés de techniques, de stratégies, de clés pour ceci ou pour cela, ils prennent de la hauteur, ils cherchent à dominer les situations, etc. Et pour moi, toutes ces façons de parler, de penser, reflètent une erreur majeure. Celle de prendre la vie pour un problème de mathématiques. Vous avez sûrement, Jean-Luc, déjà vu des livres, de nombreux livres d'ailleurs, qui ont pour titre « 6 clés pour vous rendre heureux en 6 jours », etc. Et voilà,
vous
toute cette publicité, non, j'y crois pas vraiment, même pas du tout. Pour moi, c'est pour cela que l'homme, l'auteur de notre texte, donne ce conseil qui peut être étrange, ne te presse pas de t'énerver, de t'irriter. Là où la rentrée et tous ces impératifs, ces urgences nous poussent à avancer vite, à trouver rapidement des réponses à toutes nos questions, à solutionner peut-être l'équation, nous sommes invités par le texte biblique à être patients. Quand je reformule cette phrase au positif, d'ailleurs, ça donnerait « prends le temps pour t'irriter ». Donc, réfléchis à ce que tu es en train de vivre, à la façon dont, à partir de là, tu pourrais t'orienter. Ne lâche pas la bride au stress.
Alors, pour reprendre ce que je disais précédemment sur le chemin, ça pourrait être « prends le temps du chemin, précisément
oui. ».
Prends le temps de le découvrir, d'y réfléchir, de marcher pas après pas, précisément donc sur ce chemin.
Oui, tout à fait. C'est une réflexion lente, large, horizontale, qui tient compte du quotidien, abreuvée de l'espérance chrétienne. Ça me rappelle ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui vit aujourd'hui un regain d'intérêt de la part de beaucoup de
tout
monde. C'est une réflexion qui s'appuie sur la conviction que Dieu réalise ses plans au milieu de ses enfants. Et pour moi, c'est cette réflexion-là qui ouvre de multiples horizons et non la pensée qui prend son envol comme l'aigle et puis qui finit par se perdre dans les méandres de l'illusion à force de monter toujours plus haut pour dominer la situation.
Revenir un petit peu plus les pieds sur terre alors.
C'est ça, c'est ça, la pensée pratique. Pour résumer ces mois de réflexion, de prière, de préparation que je viens de vivre, que toutes ces dimensions, ces trois dimensions, se devaient d'être présentes pour toutes les structures quelle qu'elle soit, individuelle ou collective, familiale ou ecclésiale. L'héritage du passé, qui est notre enracinement, qui nous assure solidité, confiance, sécurité, et qu'il nous appartient de mettre en valeur, d'en avoir conscience sans cesse, de rafraîchir régulièrement. Et puis la deuxième dimension, la joie de l'avenir, qui est notre force, qui nous donne l'orientation, le dynamisme, la direction, et qu'il nous appartient de rendre évident, compréhensible pour le plus grand nombre. Et puis la troisième dimension, qui se cale entre ces deux pôles, ce jour d'aujourd'hui qui m'est donné, étymologiquement, c'est le jour où je suis et dans lequel quelque chose commence.
Alors cette notion du présent est donc tout particulièrement à considérer pour vous.
Oui, il ne faudrait pas tomber dans la statuification du passé, comme la femme de Lot transformée en statue de sel. Il ne faudrait pas non plus être propulsé en avant ou vers le haut comme beaucoup de visionnaires de l'avenir. Nous sommes invités, d'après le texte biblique, à investir le seul temps qui nous soit donné, et c'est le présent. À être présent au présent, en quelque sorte. Parce que c'est dans ce temps-là que je suis invité à agir de telle sorte que les fruits de la fin, ceux que Dieu souhaite voir advenir, apparaissent sur les branches des arbres que sont nos vies. Alors j'entends déjà ici les agitations intérieures des cœurs de certains de nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est que ces fruits que Dieu souhaite voir advenir? Il appartient à chacun de répondre à cette question et c'est certainement l'une des plus importantes de nos existences.
Alors j'ose vous demander, et vous, comment abordez-vous personnellement justement cette question?
Moi personnellement, c'est dans la Bible évidemment que je trouve une réponse satisfaisante à cette question, et plus particulièrement par exemple dans un texte comme 1 Corinthiens 13, nommé souvent l'hymne à l'amour, mais c'est une autre histoire. Alors, pour finir, encore quelques mots, parce que au-delà de ma prise de fonction en tant que secrétaire générale de la Fédération Baptiste de France, qui est un commencement particulier, les ondes bruissaient ces derniers temps de questions souvent angoissées autour du monde d'après cette pandémie. De quoi sera-t-il fait? Comment s'orienter? Quoi décider? Nous l'avions évoqué tout à l'heure. Un grand nombre de personnes, mais aussi d'églises, d'œuvres, se posent des questions légitimes quant à demain. Et je les invite simplement à suivre tranquillement, humblement, le chemin tracé par les questions que je viens de mentionner. Et je ne doute pas un seul instant que l'Esprit, le souffle créateur, les conduira vers des horizons nouveaux et inattendus.
Alors je disais tout à l'heure que l'espérance était sans doute bienvenue. J'entends donc aussi avec cette fin le mot confiance en Dieu et enfin ouverture à cet inattendu que vous suggérez. Merci beaucoup Joëlle Razana-Johari et tous mes vœux et encouragements dans
vos
nouvelles
vous.
Fonctions. Merci aussi de nous avoir fait partager ce matin donc vos réflexions personnelles et de nous permettre de les rejoindre avec nos enjeux individuels et puis collectifs également. Ever needed the Lord before, oh, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. Oh Lord, we sure do need Him now. Ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. C'est la fin de ce service protestant proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire et aujourd'hui avec Philippe Mercher à la technique. Et puis la pasteur Joëlle Razana-Johari, secrétaire générale de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. C'est sur le site de franceculture.fr mais aussi de protestantaupluriel.org que vous pourrez réécouter cette émission. Mais également retrouver le texte de la méditation du jour. Le podcast, quant à lui, est disponible, vous le savez, sur l'application de votre choix sous l'intitulé « Service protestant ». Vous pouvez enfin aussi nous écrire par courrier donc à Service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris, ou plus simplement encore, si vous le pouvez, par email à communication@fédérationprotestante.org. Je vous retrouve tout de suite pour votre rendez-vous mensuel de culture protestante. We sure do need Him now. If we ever
I needed the love before.